Lettre 5. À Asa. Elle décrit la conduite du capitaine français et celle de son équipage. « Que j'ai souffert, mon cher Asa, depuis les derniers nœuds que je t'ai consacrés. La privation de mes kippos manquait au comble de mes peines. Dès que mes officieux persécuteurs se sont aperçus que ce travail augmentait mon accablement, ils m'en ont ôté l'usage. On m'a enfin rendu le trésor de ma tendresse, mais je l'ai acheté par bien des larmes. » Il ne me reste que cette expression de mes sentiments. Il ne me reste que la triste consolation de te peindre mes douleurs. Pouvais-je la perdre sans désespoir? Mon étrange destinée m'a ravi jusqu'à la douceur que trouvent les malheureux à parler de leur peine. On croit être plaint quand on est écouté. Une partie de notre chagrin passe sur le visage de ceux qui nous écoutent. Quel qu'en soit le motif, leur attention semble nous soulager. Je ne puis me faire entendre et la gaieté m'environne. Je ne puis même jouir paisiblement de la nouvelle espèce de désert où me réduit l'impuissance de communiquer mes pensées. Entouré d'objets importuns, leur regard attentif trouble la solitude de mon âme, contraigne les attitudes de mon corps et porte la gêne jusque dans mes pensées. Il m'arrive souvent d'oublier cette heureuse liberté que la nature nous a donnée de rendre nos sentiments impénétrables. Je crains quelquefois que ces sauvages curieux ne devinent les réflexions désavantageuses que m'inspire la bizarrerie de leur conduite. Un moment détruit l'opinion qu'un autre moment m'avait donnée de leur caractère et de leur façon de penser à mon égard. Sans compter un nombre infini de petites contradictions, ils me refusent, mon cher Asa, jusqu'aux aliments nécessaires au soutien de ma vie, jusqu'à la liberté de choisir la place où je veux être. Ils me retiennent par une espèce de violence dans ce lit qui m'est devenu insupportable. Je dois donc croire qu'ils me regardent comme leur esclave et que leur pouvoir est tyrannique. D'un autre côté, si je réfléchis sur l'envie extrême qu'ils témoignent de conserver mes jours, sur le respect dont ils accompagnent les services qu'ils me rendent, je suis tenté de penser qu'ils me prennent pour un être d'une espèce supérieure à l'humanité. Aucun d'eux ne paraît devant moi sans courber son corps, plus ou moins, comme nous avons coutume de faire en adorant le soleil. Le cacique semble vouloir imiter le cérémonial des Incas au jour du Réimi. Il se met sur ses genoux, fort près de mon lit. Il reste un temps considérable dans cette posture gênante. Tantôt il garde le silence, et les yeux baissés, il semble rêver profondément. Je vois sur son visage cet embarras respectueux que nous inspire le grand nom prononcé à haute voix. S'il trouve l'occasion de saisir ma main, il y porte sa bouche avec la même vénération que nous avons pour le sacré diadème. Quelquefois, il prononce un grand nombre de mots qui ne ressemblent point au langage ordinaire de sa nation. Le son en est plus doux, plus distinct, plus mesuré. Il y joint cet air touché qui précède les larmes. Ces soupirs qui expriment les besoins de l'âme, ces accents qui sont presque des plaintes, enfin tout ce qui accompagne le désir d'obtenir des grâces. Hélas, mon cher Asa, s'il me connaissait bien, s'il n'était pas dans quelque erreur sur mon être, quelle prière aurait-il à me faire? Cette nation ne serait-elle point idolâtre? Je ne lui ai encore vu faire aucune adoration au soleil. Peut-être prennent-ils les femmes pour l'objet de leur culte. Avant que le grand Manco Capac eût apporté sur la terre les volontés du soleil, nos anciens divinisaient tout ce qui les frappait de crainte ou de plaisir. Peut-être ces sauvages n'éprouvent-ils ces deux sentiments que pour les femmes. Mais s'ils m'adoraient, ajouteraient-ils à mes malheurs l'affreuse contrainte où ils me retiennent? Non, ils chercheraient à me plaire, ils obéiraient aux signes de mes volontés, je serais libre. Je sortirai de cette odieuse demeure. J'irai chercher le maître de mon âme. Un seul de ses regards effacerait le souvenir de tant d'infortunes.